22. Corinne Rawson bavardait avec Jake de Snake Howland et Phil de Pil Chaffetz devant la salle de projection. Maltraitée par ses deux parents et deux de ses quatre frères, Corinne n'avait jamais eu d'état d'âme vis-à-vis de son travail à l'arrière. Elle savait que les gamins la surnommaient Corinne la gifleuse et ne s'en offusquait pas. Des gifles, elle en avait reçu un paquet dans le mobilhome où elle avait grandi, à Reno, et dans son esprit c'était un prêté pour un rendu. De plus, c'était pour une bonne cause. Bref, tout le monde y trouvait son compte. Évidemment, travailler à l'arrière présentait quelques inconvénients. D'abord, vous aviez le crâne bourré d'informations. Elle savait que Phil voulait la baiser, mais pas Jake, car Jake aimait uniquement les femmes qui avaient des doubles pare-chocs à l'avant et un coffre bien rempli. Et elle savait qu'il savait qu'elle ne s'intéressait pas du tout à eux, dans ce sens-là du moins, car depuis l'âge de 17 ans, elle jouait dans l'équipe adverse. La télépathie, ça avait l'air génial dans les bouquins et dans les films, mais dans la vraie vie, c'était un cauchemar. Ça allait avec le bourdonnement, un autre inconvénient. Et il y avait un effet cumulatif, ce qui constituait un gros inconvénient. Les femmes de ménage et les agents d'entretien alternaient entre l'avant et l'arrière, et ça faisait du bien. Mais les intendants et les intendantes en tenue rouge étaient affectés uniquement ici. Il y avait deux équipes, Alpha et Beta. Chacune travaillait 4 mois d'affilée, puis avait droit à 4 mois de congé. Corinne approchait de la fin de sa rotation. Elle décompresserait pendant une semaine ou deux dans le village voisin, réservé au personnel, le temps de se reconnecter avec elle-même, puis elle regagnerait sa petite maison du New Jersey, où l'attendait sa compagne, Andrea, qui était convaincue qu'elle travaillait pour un projet militaire top secret. Top secret, ça l'était. Militaire, non. La faible télépathie disparaîtrait durant son séjour au village, et quand elle retrouverait Andrea, il n'en resterait plus trace. Mais quelques jours seulement après le début de sa nouvelle rotation, elle reviendrait s'insinuer dans son esprit. Si elle avait été capable de compassion, un sentiment qu'il avait quitté dès l'âge de 13 ans, elle en aurait éprouvé pour le docteur Alas et le docteur James. Ils restaient ici presque en permanence, ce qui voulait dire qu'ils étaient exposés continuellement au bourdonnement, et l'effet produit sur eux était visible. Corinne savait que le docteur Hendricks, le médecin-chef de l'Institut, faisait à ses collègues de l'arrière des injections censées limiter l'usure constante, mais il y avait une énorme différence entre limiter un phénomène et l'empêcher. Horace Keller, un intendant rouge avec lequel elle avait sympathisé, qualifiait Ekel et Jekyll de « cinglés ultra-performants ». Il affirmait que l'un des deux ou les deux finirait par craquer, et les gros pontes devraient leur trouver des remplaçants. Corinne s'en fichait. Son travail consistait à faire en sorte que les enfants mangent ce qu'ils devaient manger, retournent dans leur chambre quand ils devaient y retourner, ce qu'ils y faisaient ne la regardait pas, et assistent aux soirées cinéma. Au moindre faux pas, une gifle les remettait dans le droit chemin. « Les gorks sont agités ce soir, » dit Jake de Snake. « On les entend. Gardez vos apsticks à portée de main pour le repas de 8 heures. » « C'est toujours pire le soir, » dit Phil. « Hey, c'est quoi ce bordel ?» Corinne l'avait senti, elle aussi. Ils étaient habitués au bourdonnement, comme on s'habitue à un réfrigérateur ou à un climatiseur bruyant. Mais soudain, il avait atteint le niveau qu'il devait endurer lors des soirées ciné, quand le cierge magique était allumé. Dans ces moments-là, il provenait de derrière les portes verrouillées du pavillon A, surnommé Gorky Park, comme maintenant. Pourtant, ce soir, il leur parvenait également d'une autre direction, semblable au souffle d'un vent violent. De l'espace détente où les gamins s'étaient rassemblés après la projection. Un premier groupe, ceux qui étaient encore performants, avait été rejoint par les pré-gorks, comme les appelait Corinne. « Putain, qu'est-ce qu'il faut ?» s'écria Phil. Corinne se précipita vers l'espace détente en dégainant son zapstick, suivi de près par Jake. Phil, plus sensible au bourdonnement peut-être, ou apeuré tout simplement, demeura où il était, les mains plaquées sur les oreilles, comme pour empêcher sa tête d'exploser. En arrivant à la porte, Corinne découvrit presque une douzaine d'enfants. Il y avait même Iris Stanhope, qui rejoindrait certainement Gorky Park après la projection du lendemain soir. Ils formaient un cercle en se tenant par la main. Le bourdonnement était si fort maintenant que Corinne en avait les larmes aux yeux. Elle avait l'impression de sentir vibrer ses plombages. « Occupe-toi du nouveau, » se dit-elle. « La crevette, c'est lui le meneur. Une bonne décharge, ça devrait briser le contact. » Alors même qu'elle tenait ce raisonnement, sa main s'ouvrit et le zapstick tomba sur la moquette. Dans son dos, presque noyé dans le bourdonnement, elle entendit la voix de Jake qui ordonnait aux enfants d'arrêter ça et de regagner leur chambre. La gamine noire regardait fixement Corinne, un sourire insolent sur les lèvres. « Attends un peu, je vais faire disparaître ton sourire, ma petite. » Lorsque Corinne leva la main pour la gifler, la gamine hocha la tête. « Allez-y, frappez-moi. » Une autre voix se joignit à celle de Kalisha. « Frappez !» Tous les autres reprirent en chœur. « Frappez ! Frappez ! Frappez !» Corinne Rawson commença à se donner des gifles, avec la main droite d'abord, puis avec la gauche, des allers-retours de plus en plus violents. Elle sentit ses joues rougir, puis s'embraser, mais c'était une sensation diffuse et lointaine, car le bourdonnement avait cédé la place à un énorme effet Larsen interne. Elle tomba à genoux au moment où Jake passait devant elle en coup de vent. « Arrêtez ça, bande de sales petits !» Il leva la main et un crépitement électrique se produisit lorsqu'il s'envoya une décharge entre les yeux. Il fut projeté en arrière, ses jambes s'écartèrent, puis se rejoignirent en un pas de danse funky. Les yeux exorbités, il enfonça l'extrémité de son zapstick dans sa bouche grande ouverte. Cette fois, le grésillement fut étouffé, mais le résultat bien visible. Sa gorge enfla comme une vessie. Une lumière bleue éclaira brièvement ses narines. Puis il bascula vers l'avant, tête la première, enfonçant le bâton électrique jusqu'à la garde. Ses doigts continuèrent à convulser sur le bouton. Kalisha entraîna les autres enfants dans le couloir. Ils se donnaient la main comme des élèves d'école primaire en sortie. Les voyant arriver, Phil de Peel recula à l'intérieur de la salle de projection. Il tenait la porte d'une main et son zapstick dans l'autre. Un peu plus loin dans le couloir, entre le réfectoire et l'entrée du pavillon A, le docteur Everett Halas s'était pétrifié. Des poings se mirent à marteler la porte à double battant verrouillé du pavillon A. Phil lâcha son zapstick et leva la main pour montrer aux enfants qui continuaient d'avancer qu'elle était vide. « Je n'interviendrai pas, » dit-il. « Quoi que vous ayez l'intention de faire, je ne... » La porte de la salle de projection se referma brutalement, coupant le son de sa voix, en même temps que trois de ses doigts. Le docteur Halas prit ses jambes à son cou. Deux autres intendants en rouge émergèrent de la salle de repos du personnel, au-delà de l'escalier menant au crématorium. Ils se précipitèrent vers Kalisha et sa bande improvisée, zapstick au poing. Ils s'arrêtèrent devant la porte du pavillon A, s'électrocutèrent mutuellement et tombèrent à genoux. Ils continuèrent à échanger des décharges jusqu'à ce qu'ils s'écroulent, l'un et l'autre inconscients. D'autres intendants apparurent. Voyant ou sentant ce qui se passait, ils battirent en retraite. Certains dévalèrent l'escalier du crématorium, une impasse dans tous les sens du terme, tandis que leurs collègues regagnaient la salle de repos du personnel ou celle des médecins un peu plus loin. « Viens, chat !» Avery scrutait l'extrémité du couloir, au-delà de Phil qui hurlait en regardant son moignon sanglant et des deux intendants sonner.
« On ne s'enfuit pas ?»«
Si, mais avant, on va les libérer. »
La ribambelle d'enfants marcha vers la porte du pavillon A, au cœur du bourdonnement.